At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000 of spuds.
Potatoes?
Yeah, jackets, roasties, dolphin wires. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it Mashback.
Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cashback given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit. Comme tous les soirs, nous sommes en direct, bien sûr, après cette soirée d'Europa League. L'After est à la radio sur RMC, l'After est à la télé sur RMC Sport News. Bien sûr, l'After, l'émission qui dit tout, ce que le monde du football ne pense pas encore. Avec ce soir, Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Bonsoir les amis.
Et avec Lionel Charbonnier, on l'a gardé, hein, il est bien, hein, donc on l'a gardé.
Bonsoir moi Gilbert, salut Daniel.
Salut Lionel.
Bonsoir à tous.
Dans quelques instants, Simone Rovera va nous rejoindre pour parler de la Lazio. Et oui, défaite de Rennes ce soir à Rome face à la Lazio un peu plus tôt dans la journée. Vous le savez, Saint-Etienne et Wolfsburg ont fait égalité un partout. On passera en revue tout à l'heure les résultats des autres clubs, hein, enfin, des principaux clubs. Vous le savez, en Europa League, il y a plein de matchs. Vous pouvez avoir tous les résultats sur l'appli RMC Sport,
voilà,
bien sûr.
Si tu donnes tous les résultats d'Europa League, on peut se casser avec Lionel Stini.
C'est bien pour ça que je les donne pas.
Demi-heure.
C'est bien pour ça que je les donne
pas. Moi, il y en a juste un. Moi, je veux juste savoir du Dudelange Karabag.
Ah, Dudelange Karabag.
Pour moi, c'était le match du soir.
C'est pas fini parce que le match a été arrêté, figure-toi. Il y a eu un incident.
Je savais qu'il fallait qu'on en parle.
Il y avait
Je sentais qu'il y avait quelque chose.
Là, il y a 20 minutes, il y a 4-0 pour Karabag. Donc, il n'y a plus de suspense.
Ah, t'es pas au courant? Non. Avec le drone qui est descendu.
En tout cas, puisqu'on va parler donc de Rennes pour démarrer, le match vient de se terminer, on vous attend au 32-16. Sachez que dans le groupe du Stade Rennais, le Celtic Glasgow a battu Cluj 2-0. Du coup, le Celtic a 4 points, Cluj 3 points, Lazio 3 points et Rennes 1 petit point. Dernier de la poule après 2 journées. Donc les Rennais, on en parle de ce match tout de suite. Je signale qu'avant la fin de l'after, on évoquera aussi la Ligue 1, hein, qui est de retour dès demain soir. Et puis notre célèbre désormais jeu Survivor. Exact.
Il est Lionel dans Survivor.
Sera de retour.
On n'a pas entendu parler de Lionel dans Survivor.
Il n'y a pas Lionel.
C'est quoi ça ?
Il faudrait qu'on te mette dans Survivor. On t'a oublié,
oui,
dis donc.
On le met quand même. Pourquoi on ne peut pas oublier Lionel là-dessus.
Tu verras tout à l'heure. C'est un jeu de dingue.
Toi, j'aime pas quand t'as des idées comme ça.
C'est pas moi l'idée. Alors là, je suis totalement étranger à cette idée.
Là-dedans.
Mais je dois dire que c'est un super jeu.
Alors, avant que Simone Rovera nous rejoigne, analyse du match de Rennes. Lionel, tu l'as vécu en direct là sur RMC, juste après les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
3 points de débat ce soir, messieurs, de quoi voulez-vous parler, Daniel ?
Je sens qu'on va manger une salade de regret ce soir. Je ne sais pas pourquoi, on va nous la présenter. Donc ça c'est mon point 1. Mon point 2 c'est que personnellement je ne mangerai pas cette salade de regret parce que, et c'est mon point 2, j'ai le sentiment qu'on a vu une sorte de scénario traditionnel de la bonne petite équipe de Ligue 1 en Coupe d'Europe qui au final pense contrôler quelque chose mais ne contrôle pas grand chose parce que c'est au final la Lazio qui a fait un peu ce qu'elle a voulu dans ce match, c'est-à-dire n'être pas bonne à un moment puis se dire bon mais maintenant il va falloir qu'on soit bon. Avec un entraîneur qui se dit je vais faire des changements parce qu'on est à côté de la plaque et puis je vais gagner le match. Et puis le génie Julien Stéphan se dire je fais des changements mais moi je vais rater. Le génie étant un terme en l'espèce totalement ironique, vous l'aurez compris. Et mon troisième point, c'est pour parler du match de l'après-midi, du début de soirée de Saint-Etienne. Match franchement, on s'est quand même bien ennuyé. Il y a eu que.
Ah, il y a du mieux, Daniel.
Ouais, bon, enfin, en tout
ça
cas,
sera
il n'y a eu que 112 secondes intéressantes. 112 secondes. Ça dépasse pas de réussir à calculer les secondes entre le premier et le deuxième but. Tu pourrais être étonné par ça, Gilbert. Je t'en veux un
non,
peu.
Non, mon premier point, moi, justement, tiens, pour répondre à Daniel, moi, j'ai trouvé que les Stéphanois, alors, bien sûr, c'est pas un jeu extraordinaire, c'est pas mirobolant, il n'y a pas beaucoup de mieux dans le jeu. Ok. Mais par contre, il y a du mental, il y a du, dans le comportement, c'était complètement différent de ce qu'ils nous ont fait, il y a 10 jours.
Tu peux aller regarder la télé?
Je sais pas, mais en tout cas, franchement, là-dessus, il y a rien à dire. Ils ont mouillé le maillot. Quand t'es malade, comme sont malades les Stéphanois, ça commence par ça. Ça, c'est le bon médicament. Avoir un bon mental, un bon comportement, mouiller le maillot, avoir de l'allant quand même, on peut pas leur reprocher ça.
Alors, les trois points, le concept, c'est que c'est assez court, en général.
D'accord. Alors, ça, c'est le premier point. Non, parce que j'ai peur que Daniel m'interrompe après. Le deuxième point. On gagne avec ses remplaçants. La Lazio a gagné avec ses remplaçants. Et puis mon troisième point, je rejoindrai Daniel, les choix de Stéphane sur les changements.
Alors Rennes, on y va.
Judicieux.
Guillaume est avec nous, 32-16 supporter rennais. Salut Guillaume.
Oui, bonsoir.
Salut Guillaume.
Bon, tu retiens quoi là? T'es déçu?
La Lazio était au-dessus, je pense, sur ce match. On a le sentiment que la première mi-temps était très très soporifique de côté. Et donc nous, on tient le ballon sans être hyper dangereux, sans être tranchant. On marque très vite dans le deuxième mi-temps. Et là, tu as le sentiment que la Lazio, ça les réveille. Et puis en 20 minutes, ils changent de niveau de jeu. Et puis on prend le bouillon, leur attaquant devant, là, le Black, il commence à déménager un peu tout le monde. Et puis on prend un but, on prend deux buts. Bon, après, on arrive à reprendre un peu la position de la balle. Mais voilà, sur ce match-là, on savait que la poule allait être plus forte que pour nous. Hein. La Lazio, c'est au-dessus de nous, il n'y a pas de secret. Bah, on perd 2-1. Bon, le 1 partout aurait permis d'y croire encore pour la qualif. Ça va quand même être très, très dur. Restera à voir la confrontation aller-retour concluse. Et voir ce qui se passe devant entre la Lazio et
la qualif très très dur. T'as quand même le Celtic qui ok met du nerf dans ses matchs, et du caractère.
Mais ils vont rien lâcher.
Je sais, c'est une de leurs caractéristiques, mais ils n'ont que celle-là parce que techniquement c'est quand même faible et on l'a vu dans le match à Rennes. Rennes aurait dû remporter ce match-là.
Parce que nous, on l'a même pas celle-là.
Je sais, Lionel, mais c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Il est bien là le problème. Après, tu joues Cluj, qui est quand même une équipe. Moi, je veux bien que ça. Mais c'est pas normal que Cluj se soit supérieur à Rennes. Enfin, ils n'ont pas encore joué l'un contre l'autre. Mais déjà, qu'après deux matchs, ils soient devant, c'est pas normal non plus. Dire si Rennes termine troisième ou quatrième de ce groupe, permets-moi de penser que c'est pas normal. C'est pas, on en revient toujours au même point. C'est toujours les mêmes débats le jeudi soir sur le niveau de nos clubs qui vont en Europa League. Mais c'est pas possible quoi. Tu peux pas être quatrième de ce groupe-là.
Après Guillaume, moi je suis d'accord avec tout ce que t'as dit, sauf un truc. C'est quand tu dis que la Lazio était supérieure.
Dans ses phases de jeu, quand elle a voulu accélérer, elle était supérieure intrinsèquement.
Ils font jouer une équipe de remplaçants. C'est que c'est pas normal. Tu joues contre
les remplaçants de la Lazio.
Remplaçant, c'est une équipe pratiquement une équipe B et sur le papier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai aimé la première partie, la première mi-temps des Rennais, c'est qu'ils ont joué beaucoup plus haut, beaucoup plus fort, sans trop respecter, sans trop regarder. Et après le but, les Rennais se sont mis à reculer. Ils sont retombés dans leur travers.
Tactique,
je crois que c'est français. J'ai l'impression on en parlait avec Ludo, c'est français.
Tactique de Ligue 1 classique.
Exactement.
J'ai mis un but. Et là, je te rejoins, après Guillaume, je recule. Et bim, et tu te lèves l'autre, il dit bon, tiens, j'ai deux bons joueurs sur le banc. Les gars, vous voulez pas aller me faire la diff? Et hop, c'est réglé. C'est pas possible.
Tu peux pas, Milinkovic,
tu peux pas te faire retourner
déjà,
comme ça.
Déjà, ne serait-ce que Milinkovic, tu retrouves tout de suite Immobilier. Parce que Immobilier a complètement changé son jeu dès que Milinkovic est rentré.
Exactement. Il était très fort, il est rentré. Bonne rentrée.
Exactement. Contrairement, je sais pas ce que t'en penses, mais déjà la sortie de Kamavinga, je l'ai pas compris. C'était le seul qui était capable de porter un peu de percussion.
Il voulait le préserver pour le championnat.
Super dur.
Ouais, sûrement.
Peut-être un peu cramé physiquement aussi, là que c'est.
Il y avait que lui qui était capable de.
Super fort.
Bah, franchement.
Est-ce que c'est normal que ce soit un môme de 16 ans qui soit le leader de ton équipe?
Non.
Qu'est-ce qu'ils foutent les autres, quoi, au bout d'un moment aussi?
Tiens, on va écouter Guillaume.
Il est vrai que les changements du génie Stéphane m'ont un peu surpris.
Moi, ce soir, ils m'ont surpris.
Alors, Guillaume, avant que tu continues, on va écouter Clément Grenier. Oui. C'était il y a quelques instants avec Momo Boissy sur place.
Ah, on est frustré parce que je crois qu'on fait une très grosse première mi-temps. On fait une très bonne deuxième mi-temps, même si on a subi un petit peu au retour de la mi-temps, mais c'était logique. La frustration parce que je crois qu'ils n'ont pas grand-chose dans le match. je pense, à chaud en tout cas. Dans l'état d'esprit, on a été super bon, on a fait des choses, on a fait très bonnes choses avec le ballon, on est su repartir de derrière, on les a malmenés, et malheureusement, on part avec 0 points, c'est ça qui est frustrant.
L'Aldio était vraiment au-dessus de vous ce soir, où on a l'impression surtout que l'entrée de Milinkovic et le talent d'Immobilier a changé la donne de ce match.
Ouais, c'est des grands joueurs, c'est sûr. Après, je pense que on a beaucoup de positifs ce soir, sauf les points. Il va falloir continuer de travailler, on n'est pas récompensé en ce moment, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont avec nous. On va en prendre un mi-temps des décisions difficiles, mais bon. Je crois qu'il faut malgré tout être fier de ce qu'on a fait. On a su rivaliser. C'est vraiment dommage de ne pas repartir au moins avec un point ce soir. Il faut continuer. On va avoir une confrontation contre Cluj qui va être très intéressante à domicile. Il faudra prendre des points pour rattraper ces points-là. Mais vraiment, je suis fier de notre équipe. On est venu à l'extérieur avec beaucoup d'ambition et d'envie. Voilà, on a quelques regrets évidemment parce qu'on prend ces deux buts qui sont... Peut-être, voilà, on aurait pu les éviter, mais voilà. Il va falloir garder la tête haute et continuer de travailler. Dès dimanche, on aura un match important pour le championnat.
Voilà ce que dit Grenier. Alors oui, il s'enflamme peut-être un peu sur la première mi-temps fantastique et la deuxième mi-temps.
Bah, elle était mieux que la. Oui, voilà, c'était bon. C'était un peu des superlatifs. C'était une bonne première
après,
mi-temps.
Après, je suis toujours un peu indulgent avec les déclarations comme ça juste à la sortie du terrain où les mecs sont à chaud. Bon, ouais. C'est pas
après la deuxième, lucidité. La deuxième mi-temps, franchement, j'ai pas du tout aimé.
Guillaume, tu veux ajouter quelque chose?
Ouais, bah juste deux mots après, c'est pas en prendre l'antenne toute la soirée. Mais je pense qu'intrinsèquement l'équipe est un peu moins forte que l'année dernière. C'est-à-dire que un mec comme André n'a pas été remplacé dans l'impact au milieu de terrain, ça c'est certain. Sur le côté, un mec comme Sarr, s'il avait un côté nonchalant, n'est pas remplacé non plus. Et à gauche, un mec comme Ben Saïdi faisait beaucoup de boulot. En gros, le grain de folie qu'il y avait un petit peu l'année dernière avec Rennes, qui permettait sur des matchs comme ça un petit peu de Coupe d'Europe ou de Coupe de France, de passer dans une folie d'un match, on n'arrive pas à le faire cette année et on sent que c'est un peu trop soporifique. Donc c'était mon seul dernier point à dire. Et deuxième point par rapport à Daniel, on peut discuter, mais pourquoi toujours avoir cet œil entre guillemets méchant, d'un ton ironique sur Julien Stéphan, le génie, deux fois tu l'as dit, je vois pas en quoi ça fait avancer les débats. On peut parler sans forcément avoir ces côtés ironiques. On n'a jamais dit que Stéphan était le meilleur entraîneur du monde, on a juste apprécié l'année dernière qui nous emmène en finale de Coupe de France.
Parce qu'on en fait beaucoup trop.
Ça ne dit pas à l'antenne de dire d'un ton ironique, le génie Stéphan, il a jamais proclamé qu'il était génie, ni nous le sort de Rennes. C'est ce que je voulais dire simplement ce soir. Donc je te laisse répondre si tu veux.
Alors, c'est effectivement, c'est ironique, ça tu as raison. D'abord parce qu'en plus, j'aime bien l'ironie. Et donc, on peut aussi s'autoriser à en faire. Hein. C'est pas interdit par la police, tu vois, on va pas m'enfermer pour ça. Et deux, parce que. Comment dire ? Parce que je pense qu'on en a trop fait et on a trop dit. Alors peut-être pas lui personnellement, même si permets-moi d'avoir quand même décelé une pointe de prétention dans beaucoup de ses discours, et parce que manger tout pendant plus de 6 mois maintenant sur cette soi-disant épopée l'année dernière. Je trouve qu'on en a trop fait. Et on en a trop fait pour au final s'apercevoir que bon, bah, c'est rien d'autre qu'un classique entraîneur de Ligue 1, comme on l'a dit, qui fait les changements classiques, qui fait le match classique en Coupe d'Europe. Voilà, il y a rien de dingue. Alors que ce qu'on nous a vendu, alors c'est pas ironique, tu vois. Toi, peut-être tu le prends pour toi parce que t'es supporter de Rennes. Alors, je suis désolé par rapport à toi, je suis désolé que l'ironie te touche, toi, comme les autres supporters rennais. Mon ironie, quand j'en fais dans le foot, sur les joueurs, ce machin, souvent, elle est adressée à nos chers observateurs qui aiment bien monter des histoires et gonfler des personnes sans attendre réellement de voir de quel bois se chauffent ces personnes-là. Tu comprends ce que je veux dire? J'aimerais bien qu'il me réponde. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pas toi en tant que supporter de Rennes que je vise. C'est ce monde médiatique, ce monde autour du foot qui adore gonfler les personnes et faire devenir, tu vois, c'est une sorte de ballon de baudruche qu'on adore monter dans notre football sans attendre réellement de savoir si les mecs sont... Laisse-lui un peu de temps, putain! Laisse-lui un peu... Toi, pour voir si vraiment il peut faire. Tu vois, est-ce que t'es d'accord? Je veux dire, au-delà.
Mais laisse-moi parler, Daniel. Tu me demandes si je réponds.
Parce que j'avais une autre question à te poser. Dans le côté, on en fait trop.
Déjà la première, Guillaume.
Voilà. Dans le côté, on en fait trop. Si on sort du contexte qui était pour vous, supporters de Rennes, très particulier de, pour une fois, faire quelque chose en Coupe d'Europe. Parce que ça, je t'assure que je suis touché par ça et je le comprends. Mais est-ce que tu comprends que je considère qu'on en a fait des tonnes et des tonnes, par exemple, quand on utilise le terme épopée? Ça fait quand même tourner la tête au bout d'un moment. J'ai dit, mais les gars, mais nous, un peu de justesse, quoi.
Nous, on n'a jamais parlé d'épopée. On s'est dit qu'on s'est marré pendant l'année dernière à s'éclater à la Séville, à s'éclater à aller contre Arsenal, s'éclater en Coupe de France. Mais c'est pas nous les médias, c'est vous les premiers qui enflammez les choses. Donc, Julien Stéphan, c'est un entraîneur, je pense, qui est un bon entraîneur. Nous, on l'a jamais porté aussi. On n'a pas fait une statue avec Julien Stéphan encore au stade du Horizon Park. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, ensuite, je trouve que ce terme est un peu, malvenu, à mon avis, parce que c'est facile de donner ce ton ironique.
Je t'ai expliqué d'où venait mon ironie.
Vous avez pu dialoguer, tu dois pas le prendre
pour toi.
Sur Stéphan, là, t'en penses quoi, toi, globalement, de ce coach, de ce qu'il est
Daniel n'a pas totalement tort par rapport à ce qui se passe actuellement, et Guillaume non plus. Et je veux dire par là que on était contents tous l'année dernière, Rennais et Français, d'avoir moi j'appelle ça cette épopée, cette fougue, tout ce que les Rennais nous ont donné. J'avais mais cette Lionel, fraîcheur.
Ça c'est une épopée. Ce que vous avez fait avec Auxerre, ça s'appelle comment?
Attends.
Mais non, mais tu vois quand vous faites les parcours où t'élimines des gros clubs, frais, où il y avait des matchs aller-retour de folie, quand vous perdez en demi contre Dortmund.
Oui,
c'est quoi? Mais Auxerre, c'est un club rikiki. Auxerre, c'est un club rikiki d'une petite ville de 40 000 habitants, bordel.
Tu as dit.
Moi, ce qui me déplaît, c'est le manque de mesure quand on parle de quelque chose.
Tu as dit toi-même. Rennes, ils n'avaient pas vécu ça depuis, ou jamais vécu ça en Coupe d'Europe. C'est une première.
Ouais, mais alors, on dit je leur dis pas à eux, mais encore une fois, c'est pas pour eux. Moi je les laisse kiffer sans problème. J'aimerais qu'on comprenne. C'est les mots qu'on emploie. Genre, on est dans la toi t'es dans la démesure, t'en fais trop, t'exagères. Mais putain, c'est vous qui exagérez. C'est pas moi qui exagère.
J'essaie de tempérer. Je dis que t'as raison dans un sens et Guillaume a raison aussi dans un autre. C'est-à-dire que quand tes supporters et son entraîneur, qu'ils ont vécu,
c'est pas lui que je vise. Moi, je suis désolé que lui le prenne mal.
J'ai parfaitement compris. C'est vrai qu'après ça, t'as eu ce vent fraîcheur de tout ça. Le football à Rennes, moi j'ai aussi, je me suis pris pour un Rennais à un moment donné quand les Rennais jouaient, parce que je suis derrière l'équipe française qui joue à ce moment-là. J'étais content. J'étais content du boulot de Stéphan.
Il suffit de réécouter les acteurs à ce moment-là.
Mais je suis super content pour Stéphan. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, Daniel, c'est que on peut pas non plus enflammer parce qu'il y a eu une petite épopée, parce que derrière on demande une confirmation, une petite aventure. Non, mais pour vous répéter le terme.
On va faire un truc simple. Je vais regarder la définition exacte d'épopée.
On demande une confirmation de Stéphan derrière, et là la confirmation, c'est toujours très compliqué de confirmer, et surtout en Coupe d'Europe, et on l'a vu, on est en train de le voir actuellement, et là aujourd'hui, moi personnellement, par rapport au choix de Julien Stéphan, honnêtement, dans ces changements, j'ai pas aimé. Autant l'année dernière, j'étais très inspiré, et dans la confirmation de cette année et du match de ce soir, je reste sur ma faim.
Il s'est planté pour toi.
Épopée.
Oui, dans ces changements aujourd'hui, pour moi, il s'est planté.
Alors. Épopée, long poème ou récit de style élevé où la légende se mêle à l'histoire pour célébrer un héros ou un grand fait épique. Ou autre définition, suite d'événements historiques de caractère héroïque et sublime.
C'était historique pour le club. C'était bien historique l'année dernière ce qu'ils ont fait. C'était quelque chose d'historique.
C'était oui, dans le sens où ça s'est jamais vu. C'était dans un sens
historique. C'était historique, Daniel.
Donc ce terme d'épopée.
Ah, j'étais en train de. T'aurais pas dû. Mais bon, t'es courageux, t'as lu jusqu'à la fin.
Toi tu me dis, ouais, oh là là.
Voilà, t'as été courageux et honnête.
C'est historique pour leur histoire à eux, alors.
Exactement. Mais c'est comme.
Alors,
c'est l'histoire de Stéphan et des Rennais.
On va pas faire de la sémantique toute la soirée. rentre dans les détails du coaching. Qu'est-ce que t'as pas aimé?
La sortie de Kamavinga dans le milieu de terrain, qui sort, il sort.
Pour toi, il devait finir le match. Il restait 20 minutes.
Oui, c'était le seul. Même s'il est jeune, il est jeune. Alors quand Mbappé est jeune, on dit ah ben il est jeune, il peut jouer tout le match parce qu'il a les quilles, il a tout ça, ouais. Il va pas se blesser. C'est vrai, et quand c'est Kamavinga, on va dire ah ben il est jeune, faut le faire souffler parce qu'il est trop jeune. C'est exactement la même chose. C'est pas parce qu'il y a un René, un Parisien, même si t'as un phénomène, Kamavinga, j'attends de voir s'il continue comme ça, ça va devenir aussi un petit phénomène. Et donc aujourd'hui, c'était le seul à casser les lignes, c'était seul à faire les transitions défense-attaque dans le milieu de terrain. On le fait sortir, qui l'a fait après? À partir du moment où Kamavinga est sorti, honnêtement, eh ben c'est tout de suite l'égalisation derrière de la Lazio. Ouais. Et puis, tu vois aussi que tes remplaçants sont là pour te faire gagner les matchs. Les Rennais, les changements ont été faits et les remplaçants n'ont pas répondu présent.
Bon, après, Bourigeaud, c'est pas une entrée dégueulasse non plus. Mais bon, il a failli marquer.
Voilà. Alors après,
Lionel, mon avis là-dessus. Je sais pas si. Moi aussi, j'ai trouvé les changements. Je veux bien être d'accord avec toi là-dessus. Mais en y réfléchissant bien, je crois que c'est plus les changements de la Lazio qui ont été opérationnels et opérants, que les changements. J'arrête de dire le génie Stéphane pour être arrêté d'être ironique parce que ça touche les supporters de Rennes. Donc plus que les changements de l'entraîneur rennais, plus ça.
Mais quand je pense que c'est plus, tu peux pas comparer les deux bandes touches.
Je pense que c'est plus la Lazio qui a démarré mollement, de façon attentiste, en n'étant pas bonne. Qui une fois menée, s'est dit bon ben maintenant on va se mettre à jouer. En fait, c'est plus elle qui a dicté le ton au total du match.
Ils ont étudié les Rennais,
plus tout. Que Rennes. Rennes au final a un peu subi les événements. C'est ça qui me perturbe.
Quand tu regardes les Rennais depuis 2-3 matchs, ils sont très bons en première mi-temps. En deuxième mi-temps, Guillaume le disait, il a parfaitement raison et c'est pour ça aussi que j'étais d'accord avec lui.
Ils ont subi.
Deuxième mi-temps, ils n'existent plus. Et donc qu'est-ce qu'a fait la Lazio aujourd'hui? En première mi-temps, ils ont géré. En deuxième mi-temps, il a balancé. Alors, oui. Il aurait pu balancer qu'un, c'était Milinkovic, et ça aurait suffi, sûrement. Je ne sais pas, Simone va nous en parler tout à l'heure. À partir du moment où celui-là est rentré, Immobilier est devenu le grand Immobilier qu'on connaît. Il a commencé des appels à droite, à gauche. Et donc, Rennes a subi en deuxième mi-temps contre une équipe beaucoup plus forte de la Lazio, ne serait-ce que par la rentrée de Milinkovic.
Je vais ajouter deux choses. Je pense également que Rennes a été frappé du fameux syndrome post-traumatique.
On sait pas le post-traumatique
victoire contre le PSG. Ça, c'est quelque chose. La victoire en début de saison, là. Généralement, les équipes qui battent
le PSG. Tu penses qu'elle a fait du mal, celle-là?
Le PSG, les équipes qui battent le PSG en championnat. Souvent derrière, il y a un gros trou.
Ils mettent 2-3 matchs. Voilà. Pour ça.
Rennes, il se trouve que ça leur est arrivé.
Tu dis pas que.
Derrière, la série, regarde jusqu'à aujourd'hui.
C'est vrai.
Ils ont battu le PSG en finale de la Coupe, qui est le dernier match de l'année. Ils reprennent. Il y a le trophée des champions où ils font pas mauvaise figure. Ils les battent à la deuxième journée de championnat. On m'enlèvera pas de l'esprit que certains au club ont pris une petite chouille de boulard. Et se sont vus peut-être un petit peu plus beaux qu'ils n'étaient. Et je pense que l'entraîneur n'est pas exclu de la bande qui, selon moi, a pris un petit boulard.
Simone, bonsoir.
Ciao, buonasera, bonsoir. Je suis globalement d'accord.
Sur le boulard?
Sur le boulard, probablement, oui, parce que Daniel a souvent raison. Sur tout
le monde. Tu n'as pas d'avis, c'est pas grave, hein.
Il a vu sur Internet, tu sais, par exemple.
Tu sais, on était sur
Simone, là.
Je termine sur Rennes, après, je donne la parole.
Simone.
Juste, c'est pour terminer quand on me dit, parce que Julien Stéphane a beaucoup échappé à la critique et tout. Sur les 25 derniers matchs de Rennes, ils n'en ont gagné que 7.
EA Sports, it's in a game. Gagnez maintenant
votre jeu FIFA 20 et votre PlayStation 4.
Envoyez FIFA par SMS au 732-16.
C'est pas exprès.
Ça, c'est parce qu'il y a des René qui en ont marre que Daniel parle de Stéphane. Ils ont envoyé, boum. Gagnez maintenant votre jeu FIFA 20 et la PlayStation. Vous envoyez FIFA par SMS au 732-16. Vous avez entendu le message. Simone, alors sur la Lazio, moi je suis assez d'accord avec ce qu'on dit là. C'est qu'effectivement, ils ont joué à leur main. C'est-à-dire qu'après un 8 ans, bon. Ils ont été moyens, puis quand ils ont décidé de s'énerver pour gagner, ils l'ont fait, quoi.
Ben oui, l'effet que le but de Rennes arrive un minute après l'entrée en jeu de Milinkovic et Luis Alberto, c'est un hasard, c'est un coup de pied arrêté. Mais à un certain moment, Simone Inzaghi s'est dit, bon, on va gagner ces matchs. Parce que, sincèrement, la Lazio, en première mi-temps, avait tout fait pour perdre ces matchs. Ils avaient rien fait dans la proposition offensive. Ils avaient mal tenu les ballons. La transmission des balles était lente, prévisible. C'est-à-dire, c'était une des pires Lazio de la saison. Mais c'était presque une choix de Simone Inzaghi. Quand tu alignes 7 remplaçants au coup d'envoi, tu t'es dit, ça suffit pour faire mal, peut-être en deuxième mi-temps, on va gagner. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Milinkovic, on est encore loin du joueur que je mets toujours en chapeau 1, mais on voit que c'est un joueur qui, sur un match comme ça, voilà, t'échange totalement la dimension du match, avec son physique, avec sa qualité
de passes,
des frappes.
Et de ses partenaires.
Oui, mais aussi c'est que, on parle beaucoup de Milinkovic parce qu'il était décisif, mais même Luis Alberto, quand il prend les ballons, il les transmet tout de suite, il fait tourner rapidement les ballons, la justesse technique du côté du centre, dans l'axe, il mettait à droite, à gauche.
Ouais. Mais moi j'ai trouvé, alors je sais pas toi, j'ai trouvé par exemple Immobilier beaucoup plus mobile à la rentrée.
Quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui te donne les appels,
bah, il change ses partenaires. Il fait le jeu sans ballon.
Respect, Berisha et Cataldi, qui font quoi? Ils font le travail qu'ils font, c'est-à-dire d'être des bons.
Exactement, mais c'est ce que je dis.
Mais Immobilier, pourquoi doit faire 30 appels en première mi-temps si c'est qu'il n'aura jamais un bon ballon? Tu vois.
C'est ce que je dis. Il change
l'attitude
de ses partenaires par
son
présence.
Dans les 30 dernières mètres de Rennes de l'entrée de Milinkovic. Sauf pour ce but que j'ai dit arrive par Rennes, mais vraiment sur l'action immédiate après l'entrée en jeu. Donc, Simone Inzaghi avait dit on va gagner les matchs. Il a dû faire des 0-1. Donc, il a eu besoin de deux buts. Mais dès qu'il a dit on va gagner les matchs, la Lazio l'a gagné.
Après, ce qu'il faut dire, c'est que et les Italiens sont très forts tactiquement là-dessus. Ils te donnent toujours l'impression que tu vas gagner. Je les ai joués plein de fois, les Italiens. Tu as toujours l'impression que tu vas gagner. Qu'il disait dans son interview. Le Rennais,
Grenier
le disait, on a fait pratiquement jeu égal. Tu fais tout le temps pratiquement jeu égal. En première mi-temps, tu penses tout le temps que t'es pratiquement prêt, t'es proche de marquer, mais tu marques pas. C'est-à-dire qu'ils te font le 3-5-2 est un jeu très éprouvant. Ils t'attirent vers leur but. Ils maîtrisent. À chaque fois qu'ils t'attirent, ils maîtrisent ça. Ils te fatiguent. Et t'as l'impression, tu dis, mais t'arrives jamais à marquer. T'as l'impression que tu vas marquer, tu marques pas. Et en attendant, tu t'es fatigué. Et eux, quand ils décident de balancer leur torpille, ils mettent un ou deux scuds, ils te font rentrer un Milinkovic, et là, tout d'un coup, t'en prends un, tu dis, mais c'est contre le cours du jeu. Et pourtant, on a fait jeu égal, on aurait même pu gagner. Et c'est tout le temps la même sauce contre les Italiens. Mais c'est une maîtrise de l'espace, une maîtrise tactique et une maîtrise de ce genre de match, c'est culturel.
Ouais, mais
honnêtement,
face à une équipe qui est plus faible, parce que la Lazio s'est fait ce match-là.
Bien évidemment,
face
tu sais
Juve,
contre qui tu le fais. Mais parce qu'ils ont étudié Rennes et ils savent pertinemment que les Rennais, en seconde période, ils sont pas
Rennes,
bien.
Starkocha n'a pas fait des grands arrêts.
Ça fait un plan de jeu.
N'a pas fait des grands arrêts, les gardiens de la Lazio en première mi-temps. L'occasion du penalty qui devait être sifflé parce que la main de Acerbi.
Par contre, il y a deux pénaux.
Donc, il y en a au moins un. La main.
Le premier, il le prend la hanche. Pour moi, il y a deux pénaux.
Ouais, le premier, c'est pas. Le deuxième,
pour moi, il y a deux pénaux.
Pour moi, c'est les Rennais qui s'ajoutent. Mais bon.
Mais toi, t'es italien, toi.
Mais non, moi, j'ai.
On a parlé avec
j'ai la main à la maison, putain. S'il vous plaît, on va accueillir Pierre au 32-16 dans quelques instants. Mais d'abord, on écoute Olivier Létan, interrogé par Momo il y a quelques instants, après cette défaite de Rennes.
Certains de vos joueurs évoquent, et notamment votre capitaine Damien Desylvain, un manque d'expérience, parfois de maturité dans certaines séquences de jeu. Est-ce que c'est vous aussi votre sentiment dans le contenu que vous avez vu ce soir ?
Non, je sais pas. Le contenu du match était vraiment très très bon. Je pense qu'un nul à minima aurait été logique. Si on prend le match de Marseille et le match de ce soir, moi je vais plutôt insister sur faire encore plus, être encore plus déterminé, je pense notamment offensivement, parce que si on marque les occasions que nous avons, probablement que le match n'est plus le même. Donc c'est vraiment ce sur quoi il faut travailler, mais en étant très positif par rapport à ce qu'on a vu ce soir.
Président Létan, ça fait 7 matchs sans victoire pour le Stade Rennais. Mbaye Niang, à notre micro, disait, il ne faut pas parler de crise, par exemple. Qu'est-ce que vous retenez et surtout comment sortir de cette période qui n'est pas encore de crise, mais 7 matchs en victoire pour le Stade Rennais, c'est beaucoup.
Non, franchement, on est absolument pas en crise. J'aime pas ce terme-là. On a beaucoup de calme, de tranquillité en interne, beaucoup de confiance dans les joueurs, dans le staff, dans tout le monde. Donc, on sait que le contenu, encore une fois, que ce soit à Marseille ou ce soir, a été très intéressant. Donc, il faut qu'on fasse encore plus pour inverser le cours des choses et aller chercher des victoires. Mais encore une fois, on va le faire en restant très soudés, très solidaires, en avançant tous ensemble.
Merci, voilà Mohamed Bouafsi pour cette interview d'Olivier Létang. Et Pierre est là au 32-16. Salut Pierre.
Salut la team, ça va ?
Salut Pierre.
Pierre, je te propose qu'on fasse une petite évaluation ensemble. Qui t'a trouvé bon, pas bon, Taulier, Pied Carré, Boulet, je te laisse la main.
Alors, c'est difficile de faire, de mettre des pieds carrés ou autre chose. En fait, moi, je voulais surtout revenir sur le manque d'ambition. En fait, moi, j'en ai un peu ras-le-bol des équipes françaises. Donc là, je vais parler de Rennes, mais en général, qui viennent à l'extérieur et qui se disent, si on a un nul, c'est très bien, parce que clairement ce soir, quand tu regardes la première mi-temps et l'équipe, tu te dis, quand t'as pas envie de gagner, tu gagnes pas très clairement. Hein. La première mi-temps, moi, j'ai trouvé déjà que c'était un match moyen. J'étais pas du tout d'accord avec l'analyse de Daniel à Marseille, notamment. Parce que moi je trouvais qu'on avait plutôt bien joué. Du coup là il a remis la même équipe et là clairement il n'y avait pas de latéraux qui montaient, 5 derrière. Je suis pas forcément fan des 5 derrière, mais je trouve que avec les joueurs qu'on a à Rennes, même si je trouve que le mercato on l'a pas forcément réussi, on peut quand même faire beaucoup mieux que de jouer à 5 derrière. On a quand même des joueurs de ballon. T'as Clément Grenier, t'as un garçon comme Jonas Martin, Flavien Tay. Est-ce que jouer en 5 à 5 derrière, est-ce que c'est vraiment le truc idéal? Et du coup j'en ai un peu ras-le-bol de cette frilosité qu'il y a dans tous les clubs de Ligue 1 en général. Et au-delà de ça, il y en a beaucoup qui vont dire, ah oui, on peut avoir des regrets, mais moi je trouve qu'on peut pas vraiment avoir de regrets sur ce type de match, parce que les mecs au final, la Lazio, alors je pense que Simonet va me reconfirmer, mais je pense que la Lazio c'est clairement pas leur priorité la Ligue Europa, parce que quand tu vois il y a personne dans le stade, il met l'équipe B. Et les mecs, ils accélèrent pendant une demi-heure avant la fin et ils t'en plantent deux et ils gagnent sans forcer. T'avais pas l'impression que les mecs, ça leur posait plus de problèmes. Ils ont quasiment jamais douté. Donc
sur le manque d'ambition d'abord là, des clubs français, messieurs, puisque Pierre veut pas faire d'évaluation, vous l'avez bien compris. D'accord avec lui ou pas, Lionel?
J'ai trouvé que les Rennais avaient bien entamé, ils ont joué beaucoup plus haut. C'est pas parce que tu joues dans un 3-5-2 ou un 5-3-2 que c'est un dispositif défensif. Si tu fais un 3-5-2 avec et tu mets 6 attaquants par exemple, tu t'es pas dans un dispositif défensif.
Oui, mais ça c'est
défensif.
Ce qu'on disait également dimanche avec Pierre.
Ouais.
Il n'empêche, ça tu as raison, ça dépend de l'animation. Il n'empêche que avec Rennes, il y a toujours cette tendance à de temps en temps. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'ils le font souvent en début de match. Et le début de match de ce soir, par exemple, comme à Marseille. Ça a duré un peu plus longtemps, ça a duré toute la première période. On va dire une vingtaine de minutes. Ils démarrent très haut. Et rapidement.
Mais le 3-5-2 te permet de faire ça.
Exactement.
Et si tu le fais pas, t'es dans la mouille.
Exactement. Sauf que rapidement,
il
y a une sorte de contre-coup et ils sont sans arrêt tirés en arrière. Comme si il y avait une sorte de culture profonde qui les ramenait à une réalité de
c'est physique.
On en fait trop. Ah, si c'est physique, alors là, je m'inquiète carrément parce que là, moi, je peux pas comprendre ça.
Parce que pour faire un 3-5-2, il faut quand même avoir des mecs qui aient la caisse sur les côtés. Est-ce qu'un Traoré est vraiment capable ou un Doumbia de l'autre côté ont vraiment la caisse pour faire des 100 mètres et des 100 mètres?
Pour faire ça, Lionel, je suis d'accord avec toi, il faut la caisse physique.
Ah oui.
Pour être les deux mecs qui sont comme ça, dans les 3-5-2 qu'ont marqué le foot, qu'on se souvient, les deux là, il faut souvent que ce soit non seulement des mecs capables de faire beaucoup d'efforts, mais des mecs avec une très bonne technique.
Oui, aussi. Hein,
il faut qu'on s'arrête là, les gars.
C'est pas souvent le cas.
Simone, merci.
Au moins que t'es la caisse pour le
faire. De la Roma qui a fait un partout.
Il faut quand même être capable de faire beaucoup de choses avec le ballon, parce que souvent tu vas dans le milieu de terrain. Et dans le milieu de terrain, il faut manier un peu.
Pas si mauvais.
Là, c'est sauf une semaine européenne, qui sinon, c'était pas extraordinaire, parce que c'est seulement deux victoires. Là, c'est Juve cette semaine. C'est pas extraordinaire.
Et la Roma a fait un partout face à Wolfsberger, club autrichien.
Ah oui, quand même.
Salut Simonet.
Les Autrichiens se débrouillent très bien.
Les Autrichiens, ouais, pas mal les Autrichiens. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League.
Ouais, ouais.
Simonet, dans quelques instants, tu seras remplacé par Paulo Breitner. On va parler de Saint-Etienne-Wolfsburg. Plus tout le reste de l'actu foot du jour, évidemment. On a même Julien Laurence qui est là, tiens, pour nous parler notamment d'Arsenal.
Manque Fred seulement.
Bah ouais, mais Fred, il est plus concentré sur la Ligue des Champions. La Ligue Europa, pour lui, c'est. Ouais. Allez, à tout de suite dans l'after. Ciao.
RMC. L'after foot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, l'after est là avec Lionel Charbonnier ce soir, Daniel Riolo et Paulo Breitner qui nous rejoint pour parler de Wolfsburg entre autres, car Saint-Etienne a rencontré Wolfsburg tout à l'heure. Salut Paulo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Avant de parler de Wolfsburg et de Francfort qui a joué également ce soir, un mot de la succession, et avant de parler de Saint-Etienne, un mot de la succession de printemps annoncée. Hein. On a l'impression que c'est déjà quasi fait, même si ça ne l'est pas. Vraisemblablement, donc, les infos qu'on a ce soir, c'est que Claude Puel est toujours dans les tuyaux, qu'on a la volonté au club qu'il soit sur le banc dès dimanche pour le derby, que Puel, semble-t-il, tout de même, un brin élégant a dit, attendez, on va quand même pas annoncer aujourd'hui, alors qu'il y a un match, un changement d'entraîneur, je ne veux pas, attendons la journée de demain. Voilà, donc ça pourrait être officialisé demain, l'arrivée de Claude Puel à Saint-Etienne. On sait qu'il a vu les boss, enfin au moins l'un des deux, Romain en l'occurrence. Donc voilà la situation ce soir.
Mais jusqu'à ce jour, personne n'est allé voir l'entraîneur actuel.
C'est ce que j'allais dire. J'espère quand même que un des deux présidents ou les deux présidents ont demandé à rencontrer le Ghislain Printemps.
Le coach, à ce jour,
pour lui parler encore de cette
maintenant,
situation.
Personne n'est allé voir le coach actuel de Saint-Etienne. Pour lui dire,
tu t'en vas,
tu ne seras pas sur le banc, tu ne seras pas sur le banc dimanche. Personne n'est allé, personne lui a dit, tu n'es plus l'entraîneur.
Oui, après c'est pas la première
Peut-être
fois qu'on voit ça.
Ça va être fait ce soir. Non, mais c'est pas parce que ça a toujours été fait qu'il faut continuer à faire des choses.
Tu as raison, Lionel. Bon, enfin, voilà, on est dans un quand même.
Normalement, ce sont des.
Le monde du foot ne se caractérise pas par son élégance, de façon générale.
T'as raison, Gilbert.
Non, mais c'est vrai.
Plus spécifiquement dans le Forez.
Oui, non, mais attends.
C'est-à-dire qu'il y a encore moins d'élégance dans le Forez.
Écoute, moi, je connais un petit peu ce qui se passe là-bas, mais très modestement. J'ai rencontré certains joueurs aussi. Enfin, il y a des choses, c'est pas normal, quoi, quand même.
Tu veux dire que ça se fait, c'est pas. Le mec, il est entraîneur ce week-end à Nîmes, il gagne le match. Tout le monde dit il va être sorti, ceux qui ont les infos autour du club le disent dès dimanche. Puel est en vacances, il rentre, les présidents le rencontrent mardi, ils se mettent quasiment d'accord. Ils se mettent d'accord, c'est pas pour Wolfsburg parce qu'il y a pas le temps, mais c'est pour le match d'après et on est jeudi soir. Et donc c'est absolument après, dans les mœurs après, du Daniel, foot que train... personne ne soit allé voir l'entraîneur actuel. Non, écoute, pour lui dire tu vas laisser ta place.
Justement, j'étais en train de
c'est
penser
pas
à...
dans les mœurs du foot, c'est dans les mœurs de l'entreprise. Donc comment l'entreprise, on veut se séparer d'un collaborateur,
on va essayer.
Et puis on a préparé la suite avant de lui annoncer, écoute, voilà, c'est fini.
Non, mais surtout Gilbert, enfin, je pense moi, ce qu'on va essayer de faire c'est au prud'homme, parce que si jamais
Gislain
ne continue pas, ça va aller au prud'homme cette histoire.
Non, mais au prud'homme, c'est un CDD, donc de toute façon, tu te sépares.
Non, mais sauf que ils vont tenter une faute professionnelle, manque de résultats et tout ça. Et puis, voilà.
C'est un autre niveau d'élégance. Mais bah, là, si tu te sépares de quelqu'un, t'es plus content, bah, tu lui payes le reste en
vue. Je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas dit. Justement.
Tu as raison, dans certains clubs, ça s'est vu récemment. On va au prud'homme pour essayer de gratter. Pas tout le temps.
Bah non, enfin, souvent.
Donc attends, explique-moi. Donc, dans les mœurs de l'entreprise et tout, comme tu dis, là, ils viennent de terminer le match. Ils jouaient à domicile,
hein. Tout à fait.
Donc il y a pas de voyage en avion machin. Donc là ils sont tous rentrés à la maison.
Je sais pas, ils sont peut-être encore au stade. Il est tard là.
Il y a un derby, ils sont en massage.
Excuse-moi. Donc demain matin, rendez-vous pour le décrassage. Gislain Printemps vient pour le décrassage. Et c'est à ce moment-là qu'on lui dit tu fais tes cartons.
Il y a un dispositif légal. Il y a un entretien préalable.
Il va y avoir un entretien préalable.
Ça, donc,
je pense.
Voilà.
C'est comme ça qu'ils vont prendre. Ouais.
Lui, il sait que demain il doit aller au décrassage et demain matin on va lui dire t'es convoqué pour l'entretien.
Imaginons que demain il y a un problème avec Puel. Bon. Bah, il faut peut-être qu'ils se mettent d'accord définitivement avec Puel avant d'organiser ça. Ouais, je sais pas. Tiens, Alain est là. Alain, bonsoir.
Bonsoir, l'after.
Alain, qu'est-ce que tu penses de cette histoire avant qu'on parle du match?
Moi, je pense que si Romaillé avait l'élégance nécessaire. transfert, il filerait les 1,8 million que demande le Printemps.
C'est-à-dire et le reste en but, la fin de son contrat, en fait.
Ouais, voilà. Et on se sépare de Printemps avec élégance, avec un peu de, d'honneur, parce que dans cette histoire, franchement, les deux
copains...
Oui, les deux, ils ont été absolument assez lamentables. Ils n'ont pas eu du tout le sens de l'honneur, quoi. Ils sont laissés faire par les joueurs qui ont voulu nommer Printemps, alors qu'ils auraient dû eux prendre en main la chose. Et puis déjà nommer un directeur général en remplacement de Frédéric Paquet, ça aurait été peut-être un peu plus intelligent. Puis lequel directeur général aurait pris la décision de nommer un entraîneur valable. Printemps, ce qui est pathétique pour lui, c'est que c'est un amoureux du club en plus, qui c'est dramatique. Ils l'ont mis au casse-pipe dans un club qu'il adore. Donc c'est vraiment le comble de la malélégance, je trouve.
Je suis content que tu dises ça, Alain, parce que je le dis aussi, mais moi on me dit c'est les mœurs du foot. Moi, je suis considéré que demain matin, ce gars-là que j'ai pu moi aussi critiquer comme entraîneur, mais que le mec, on lui dise demain matin, tu viens au décrassage, et puis dans la foulée, on va te dégager, alors qu'on a rencontré Puel, que la France en... Excusez-moi.
Alors, on cautionne pas Daniel.
Je dis pas que tu cautionnes.
Dire, Auxerre, Giroud, il s'est fait aussi lourder comme ça.
C'est pas différent. Lui, ils ont été malins avec.
C'était le menhir.
Pardon. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je dis pas que vous cautionnez. J'ai dans ce qui sont visiblement ce que vous appelez les mœurs du foot. On peut aussi être
malheureusement ça devient les mœurs.
On peut aussi être un minimum discret, c'est-à-dire ok, t'as rencontré Puel, ok, t'as préparé la suite, mais là. Tout le monde était au courant. À limite, tout le monde était invité dans le resto où ils ont bouffé avec Puel. Sauf tout le monde était au... Attends, excuse-moi. Tout le monde était au courant que Puel était à Saint-Martin. Tout le monde était au courant, limite, de à quelle heure son avion arrivait. Le problème dans cette affaire à Saint-Étienne, c'est pareil, c'est que c'est une passoire, ce club. Que ce soit le monde dans l'entreprise, comme dit Gilbert, je veux bien. C'est normal, tu veux te séparer de l'entraîneur. En coulisses, t'en rencontres un autre. Bon, tu changes comme tout va vite dans le foot. Il y a un match tous les trois jours. Bah, à un moment, il faut bien faire le changement. Tu lui dis, bon, écoute, gars, c'est fini avec toi. On prend l'autre. C'est arrivé plein de fois. Mais là, tout est étalé. Parce que les mecs, dans ce club, tout le monde parle à tout le monde. Tout le monde parle à tous les journalistes. Le monde est au courant. Et Printemps, Daniel, personne va le voir. Excusez-moi de penser que c'est quand même une belle bande de tocards. Pardon, mais bon.
Faut qu'on parle du
là, moi, j'ai juste envie de défendre le pauvre Printemps dans cette affaire.
Bah, tout le monde a envie de le défendre.
Bah, écoutez-le justement parler de sa situation et après, on parlera du match quand même. On y va.
Et mon amour pour ce métier-là et la passion que j'y mets. D'accord. Donc... j'aime entraîner, j'aime coacher. Si on décide que je ne serai plus le coach de la AS Saint-Étienne, bien sûr que ça sera un crève-cœur, parce qu'à un moment donné, on m'enlèvera quelque chose que j'aime, mais on a le droit de juger que c'est insuffisant, mais ce n'est pas à moi à répondre à cette question-là.
Voilà, donc on attend évidemment plus d'infos demain. Parlons maintenant du match. Alain, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre ?
Alors, j'ai bénéficié d'une place qu'on m'a donnée, donc heureusement, j'ai pas payé pour ça, parce que c'était vraiment un très mauvais match. Des deux équipes d'ailleurs, parce que Wolfsburg était aussi mauvais que Saint-Étienne. Au début, première mi-temps, j'ai trouvé que c'était un match niveau Ligue 1. Et en deuxième mi-temps, c'était un match niveau Ligue 2, voire national. Quand il y a eu la purge additionnelle de 4 minutes, il y a eu un petit éclair de génie, entre guillemets, avec la tête de Charabi qui aurait pu faire mouche. Et je comprends d'ailleurs même pas comment ce joueur il rentre pas plus tôt, à la place d'un Casri qui fait rien, qui doit, à mon avis, reprendre tous ses fondamentaux. J'espère que Puel lui fera... tirer des coups francs, 30 coups francs par jour pour qu'il réapprenne à tirer des coups francs, 30 corners du côté droit et 30 corners du côté gauche pour qu'il réapprenne à tirer des corners, et puis qu'il lui fasse faire 10 tours de terrain ou 20 tours de terrain par jour pour qu'il perde du poids. Mvilla qui joue dans un transat, on a l'impression qu'il est dans un transat avec un verre de rhum arrangé dans une main et un partagaz dans l'autre main. C'est insupportable, ça. Kolodziejczak, on a l'impression qu'il n'est pas rentré du Mexique. Il est en deuxième mi-temps, il était pathétique, mais pathétique. Il y a des joueurs pathétiques dans ce club parce que ils n'ont pas.
Ah, Puel, il va avoir du mal à les réveiller. Hein.
Pardon.
Puel va avoir du mal à les réveiller parce que je ne sais pas quel genre de préparation foncière ils ont fait. Hein.
Il les fera remplacer parce que dans cette équipe, il y a quand même un effectif. Et donc, il y a une mise en concurrence possible. On peut les mettre en concurrence, tous ces joueurs. Donc, bon, il y en a un seul qui me paraît irrécupérable, c'est Moukoudi. Moi, quand il est rentré, ça m'a fait peur. Moukoudi, c'est pas possible. Quand on voit la différence de qualité comme arrière central entre Moukoudi et Saliba,
pour l'ASVEL, en fait. C'est ça qu'on n'a pas bien compris.
Pour Arsenal, puisqu'il est...
À mon avis, à la gare de Lyon, il a été dévié. Il devait aller à l'ASVEL et puis... Il a pris
Alain fait un constat quand même rude là sur ce qu'il a vu. Vous êtes d'accord avec lui là avant qu'on parle un peu de Wolfsburg?
Oui, il a raison. Alors après, moi j'essaierai de trouver des points positifs. Alain, c'est que on peut pas leur avoir reproché, on peut pas leur reprocher d'avoir mouillé le maillot quand même. Alors le jeu, c'est pas ça. Je suis d'accord. C'est une purge, c'est tout ce qu'on veut. Mais moi, je trouve que les Stéphanois ont mis quand même. Ont eu un autre comportement, ils n'ont pas abdiqué, parce que s'ils avaient abdiqué, quoi qu'on en dise, contre Wolfsburg, ils auraient perdu au lieu de faire un match nul. Polo va nous en parler tout à l'heure, mais Wolfsburg, c'est difficile à manœuvrer, hein. C'est pas n'importe quelle équipe. Et donc, là-dessus, voilà, moi je garderai ce point positif. Quand on est malade, comme les Stéphanois sont malades, il faut au moins mettre ça, le mental, le comportement, l'allant, ils l'ont fait maladroitement, il y a encore beaucoup de boulot dans le jeu.
Alors, Polo n'est pas un amoureux de Wolfsburg, hein, parce que lui, il préfère les Trabant aux Volkswagen.
Non, mais ça n'a rien à voir. Mais, non, mais moi, en fait.
Il y a quand même de belles Volkswagen, t'es d'accord?
C'est quand même une belle marque. Surtout qu'ils ont quand même quelque autre chose que des Volkswagen à proposer. Enfin, ils ont quasiment tout le parc.
Oui, effectivement.
Tout le parc automobile allemand.
Ils ont un parc assez immense.
Pour en revenir au match, en fait, moi, il y a un titre en Allemagne que j'ai beaucoup apprécié. C'est en fait, Wolfsburg sécurise un point. En fait, la situation, on la connaît. Saint-Étienne était un peu en crise. C'est un peu le match de la dernière chance. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Lionel. C'est qu'ils ont essayé pendant un moment, notamment à la fin, etc. Il fallait absolument essayer de faire un résultat. Wolfsburg, ils sont contents avec leur match nul. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont gagné contre l'équipe ukrainienne la première journée. Ils ont fait le plus dur, entre guillemets, en allant prendre un point à Saint-Étienne, qui est supposé l'équipe, j'ai envie de dire, la seconde du groupe. Ensuite, maintenant, il y a le match. Ils vont s'arranger avec la Gantoise pour essayer d'aller en 16e de finale. Ensuite, la prestation de Wolfsburg. Moi, depuis le début, je vous dis que c'est une équipe qui est invaincue. Mais pour moi, il n'est pas invincible. C'est-à-dire que je suis assez déçu par la production globale de ce que fait Oliver Glasner depuis le début. Mais j'ai l'impression qu'ils n'avaient même pas peur, quelque part, de cette équipe, parce qu'ils remplacent, notamment sur la fin de match, des jeunes. Il fait rentrer des jeunes, style pour leur donner du temps de jeu par rapport aux anciens, comme Weghorst qui sort, et Mecha qui rentre, ou qu'on fait rentrer le Brésilien à la place de Brecalo, etc. Juste pour jouer en contre, et on ne sait jamais si j'ai une occasion pour gagner 2-1, finalement, c'est réglé. Non, enfin, c'est pas un match qui m'a passionné. J'étais plus intéressé par l'environnement global. Comme je vis un certain temps de l'année à Saint-Etienne, tout ce Barnum que vous expliquez très bien pour moi me fait rigoler parce que tout ce que j'entends là-bas, c'est parfois fois 10, fois 15. Mais ce qui est intéressant, je voudrais réagir sur Alain aussi, si tu veux, parce que t'as deux types de supporters à Saint-Etienne. T'as ceux qui, il y a une expression à Saint-Etienne, ce qu'on appelle les bossings. C'est-à-dire que il faut jamais que ça change trop non plus. C'est-à-dire qu'ils sont, il y en a quand même certains qui se disent, mais si monsieur Romeyer et monsieur Cayazo partent, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Vous me parlez de tout ce qui se passe en ce moment. Je vous rappelle de la vente ratée Pixis, où toutes les heures, quasiment, on avait un communiqué de presse qui nous expliquait le pourquoi du comment ça a raté du côté de Saint-Etienne. Enfin, c'est délirant. C'est pas du professionnalisme, ça. Moi, j'ai même pas envie de parler de ce que j'ai entendu quand j'étais à l'intérieur du club en rencontrant des personnes. Mais voilà, enfin, on est au 21e siècle, quoi. Il y a quand même, on est tout au 19e, j'ai envie de dire.
Écoute, Polo, merci pour tout ça.
C'est moi.
Tu veux dire un mot de Francfort?
Oui, alors le match très moyen au Portugal, mais important contre Guimarães, en l'emportant 1-0. But de Ndika, le Français que j'aime beaucoup, mais qui a perdu sa place malheureusement. Il a fait un très très bon match. À mon avis, il y a que lui d'ailleurs à sortir de cette équipe. C'est important parce qu'il avait perdu 3-0 à l'aller, la première journée contre Arsenal. Donc il se relance, donc c'est intéressant. Et Mönchengladbach était catastrophique, mais ils égalisent à la 91e.
En Turquie contre Başakşehir. Merci Polo. Dans quelques instants, Julien Laurence et le reste de l'actu du jour, bien sûr. L'after revient tout de suite avec vous jusqu'à minuit.
RMC jusqu'à minuit.
L'afterfoot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là. Daniel Riolo, Lionel Charbonnier et Julien Laurence qui nous rejoint. Julien, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Manchester United, pas foutu de marquer un but à Alkmaar, 0-0.
Ouais, vraiment inquiétant dans la performance déjà, inquiétant aussi par...
Gagner un match un jour, tu penses ?
Ça fait donc zéro tir cadré ce soir là. La première fois que ça leur arrive dans l'histoire de la Ligue Europe en 25 matchs. Ça fait maintenant 10 matchs de suite qu'ils gagnent pas à l'extérieur. C'est la pire série depuis presque 30 ans.
L'anonymat est pour bientôt.
C'est incroyable. Ils ont joué comme une équipe qui est dixième de la première ligue, si tu veux. Ce qu'ils sont, en fait, finalement, ils sont à leur niveau. Ils sont à leur niveau. C'est un 0-0 à Alkmaar. C'est une dixième place en première ligue.
Mais des gens se soucient quand même de ça, ou ouais, on continue de dire le blé rentre, donc tout va bien.
C'est exactement ce que Ed Woodward nous a répété la semaine dernière. Le blé est là, l'oseille rentre, et Ole Gunnar Solskjaer, pour l'instant, n'est pas sous pression parce que, ben, finalement, tout va bien. Tout va bien. On va recruter en janvier, et puis il aura une meilleure équipe parce que c'est pas de sa faute. En gros, c'est ce qu'on nous a dit la semaine dernière. Moi, je trouve ça très inquiétant dans la façon de jouer.
Après tout. Si eux s'en foutent, pourquoi nous on s'en soucierait? Non, mais non, on va pas pleurer sur Manchester si le patron est content.
Mais pour un club de ce standing-là, de cette stature-là, de les voir comme ça ce soir.
Tu sais, il y a tellement dans l'histoire, il y a eu beaucoup de clubs qui ont au standing très important, qui ont connu des périodes.
Et au niveau des fans, ça compte pas. Il y a pas de.
Ça commence un petit peu à gronder, effectivement.
Ça commence seulement.
Ça commence. Alors après, il y en a qui prennent un peu plus cher que d'autres, comme Paul Pogba, par exemple, qui reste quand même la cible principale et préférée des gens en Angleterre.
Pogba, il est blessé du tout. Oui, mais il est blessé parce qu'il y est plus. Il devait partir et il part pas. L'équipe de France,
il a toujours la tête à la vue, je crois.
Ben oui, non, mais.
Tout est toujours de sa faute.
Par la tête au Real, où il voulait aller, mais.
Au Real, pardon, au Real.
Ouais, ouais.
Sinon, t'as Arsenal qui a joué, qui a gagné tranquillement.
Et là, en revanche, c'est beaucoup plus intéressant de leur part. On a vu beaucoup de jeunes joueurs du côté de Manchester qui ne sont pas vraiment mis en valeur, exactement, Gilbert. Alors que du côté d'Arsenal, en revanche, là, c'était très bon. Le jeune Gabriel Martinelli, qui a eu 18 ans au mois de juin, le jeune attaquant brésilien, qui est arrivé cet été, qui avait été recruté par Edu, le directeur sportif, qui a fait un match fantastique. 2 buts, une passe décisive, qui avait déjà marqué un doublé la semaine dernière en Coupe de la Ligue contre Nottingham Forest, qui est vraiment très, très bon. Il a beaucoup d'énergie dans son mouvement, avec le ballon, sans ballon. Il est très efficace aussi. C'est un vrai buteur qui peut aussi jouer sur un côté. Il a vraiment été séduisant. Et puis, on a vu encore un très bon Joe Willock, un très bon Rhys Nelson. Et puis, les latéraux, Bellerin, hein, qui revient, première titularisation depuis 8 mois, après sa grave blessure au genou. Et de l'autre côté, le jeune Kieran Tierney, qui est arrivé du Celtic cet été. Première passe décisive pour lui, deuxième titularisation. C'est intéressant pour Emery. Il va avoir d'autres options pour le match de championnat dimanche, par exemple, contre Bournemouth. Et c'est vrai que cette victoire-là contre le Standard, c'est sûr que le Standard, c'est pas une grande équipe européenne, mais avec ces jeunes joueurs-là, ça a été très intéressant.
Messieurs, il nous reste 3 minutes, 2-3 infos. Vous dire donc que Deschamps donné sa liste, Mandanda est de retour. Non, t'es pas dedans, Lionel. Je comprends pas.
Non.
Voilà, Kylian Mbappé, lui, a nouveau mal. Problème de nouveau à la cuisse. Donc, il s'est pas entraîné aujourd'hui. Soin, donc va-t-il pouvoir jouer avec l'équipe de France?
Mbappé, grosso modo, a pas démarré.
Le PSG va commencer à mettre la pression pour qu'il joue pas en équipe de France, tu vas voir.
Mbappé a, grosso modo, pas commencé sa saison.
Qu'est-ce que
on l'a vu, mais pour moi, il n'a pas commencé la saison encore. On est début octobre.
Et puis, on ne vous a pas fait écouter le mythique Pascal Duprat de la semaine. On n'a pas eu le temps avec la Ligue des Champions. Duprat, le nouvel entraîneur de Caen. Et là, il a fait du Duprat d'entrée. Alors, c'était en début de semaine, hein, mais on n'a pas eu le temps de l'écouter dans l'after. Donc, quand même, ça vaut le coup d'oreille. On écoute Duprat, facile. Pascalou.
J'ai réveillé Toulouse, qui est la 4e ville de France. Donc si j'ai réveillé Toulouse, je dois être capable de réveiller Caen. La confiance, c'est au minimum 50% de la performance. Donc il faut redonner confiance à ce groupe-là. Et puis déjà, il faut montrer qu'on a confiance en soi. Alors j'ai confiance en moi.
Voilà. Tout va bien ?
C'est bien.
Quel génie, ce Pascal. Allez, on va conclure tout de suite avec Survivor.
Moi, je l'aime bien, moi, Pascal.
L'afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax ? Les meilleures cotes.
Survivor, le principe est très simple. Vous pouvez absolument tous jouer avec nous sur winamax.fr. C'est très simple. On part sur un Survivor. Là, on en est à la deuxième journée sur celui-là. Tous les membres de l'after, sauf Lionel qu'on a oublié, donnent un club de Ligue 1 vainqueur le week-end qui suit. Ou la journée qui suit. Voilà. Okay. Sur la première journée.
N'importe lequel.
Oui, et là, pour l'instant,
si tu te qualifies, la semaine d'après, tu ne pourras pas réutiliser ce club. Il faut que tu choisisses un autre club.
Donc, c'est un peu stratégique.
Donc, tu miseras sur sa victoire.
Donc, on est encore 5 là dans ce Survivor. Il reste moi, il reste Daniel.
Ils ont chuté sur la dernière journée, ils avaient mis Lyon contre Nantes. Hop, au revoir,
il reste
monsieur.
Nico Jamin.
L'avant-dernière et la dernière a dû faire du dégât.
Il reste Laure Lepailleur et il reste Ludovic Obraniak.
Il y a moi, hein. J'ai gagné Monaco-Brest.
Je t'ai cité, t'inquiète pas.
J'ai misé Monaco.
Ludovic Obraniak dit que ce week-end, c'est Lille. Il mise sur Lille.
Lille joue quoi?
C'est Lille-Nîmes.
Lille-Nîmes ou Nîmes-Lille?
Lille-Nîmes. Laure Lepailleur joue Lille aussi. Et moi aussi, je joue Lille. Nico Jamin, lui, joue le PSG face à Angers.
Ouais,
le choc, premier contre deuxième. Tu joues quoi, Daniel?
Je pense que je vais assurer le coup parce que les autres matchs, j'ai regardé, c'est impossible de sortir un vainqueur. Je vais miser le PSG. Même si ça m'a porté la poisse sur le Survivor il y a deux semaines.
Alors, je précise que sur le Survivor, il y avait 900 personnes là, sur ce Survivor avec nous. Il en reste déjà plus que 200 hein, après une journée.
Ah, ça a décani un paquet là.
C'est un jeu très populaire en Angleterre.
Ah bon?
Ouais, tout à fait. Au travail, dans les équipes de foot. Ouais, c'est très populaire. Ça marche beaucoup.
Très bien.
Tu mises quoi, Lionel, sur cette
Moi, j'en ai mis PSG.
PSG Angers, t'es sûr de toi?
Ouais.
Prochaine fois, on te met dans le Survivor.
C'est bah oui, il faut absolument qu'il joue avec nous. Donne-lui les autres matchs, voir par fantasy, pour peut-être te citer un autre vainqueur.
Je les ai pas tous là. Bah, il y a par exemple Dijon.
Montpellier Monaco.
Dijon, je peux plus. Toute l'année dernière, je les ai donné vainqueurs, ils m'ont plombé. Là, je les donne perdants, ils n'arrêtent pas de gagner. Donc, pour leur porter bonheur, je peux pas jouer Dijon.
À Toulouse-Bordeaux, je crois. Sinon, il y a un
Toulouse. En tout cas, Survivor.
C'est chaud ça, oh.
En tout cas, Survivor est à retrouver sur winamax.fr et on fera le point lundi, bien sûr.
L'afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax.
Nantes Nice.
Les meilleures cotes.
Les podcasts de l'after, bien sûr, disponibles en ligne. Marseille, Paris, Lyon, Saint-Etienne.
Il y a des journées, c'est un jour.
Dans quelques instants, sur RMC, juste après le flash de minuit, le podcast gaming, le podcast e-sport, bien sûr, à écouter et à télécharger en plus. Puis vous avez aussi le podcast de Poker avec Daniel, le podcast J'aime courir, toujours aussi somptueux, évidemment, en ligne et disponible. Donc n'hésitez pas à les consommer, ils sont forts. Julien, merci, à très vite.
Merci à vous.
Lionel, merci.
Salut Gilbert, salut à tous.
Et demain soir, l'after sera là dès la fin du match de Ligue 1. En l'occurrence, Marseille, qui se rend à Amiens. C'est demain soir. Allez, bonne nuit à tous.
Ciao,
on sera là demain.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night, and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000. Of spuds.
Potatoes.
Yeah, jackets, roasties, dolphin wars. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it
Mashback. Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cash back given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.